un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
D'un côté, il y a un bilan officiel, chiffré, communiqué par le ministère de l'Intérieur. 3500 interpellations, 12 000 incendies de véhicules, 2500 incendies ou dégradations de bâtiments, 168 attaques d'écoles, 105 incendies ou dégradations de mairies et 17 atteintes aux élus. Un chiffrage aussi des dégâts matériels les a estimés à 650 millions d'euros, sans compter le coût de la police, de la justice, les projets annulés et les espoirs envolés. Il y a ce bilan froid et qui fait froid dans le dos. Et puis, il y a ce qu'ont vécu les habitants des quartiers, les jeunes, les profs, les flics, les travailleurs sociaux, les parents, les élus. Des récits à la première personne, subjectifs, du ressenti comme on dit, à hauteur d'adultes et d'ados, mais au moins aussi importants que les données sonnantes et trébuchantes. On commence donc aujourd'hui une petite série sur ces événements qui ont secoué les quartiers populaires au mois de juin. Ils ont duré officiellement 4 nuits, mais remontent pour certains à beaucoup plus loin et vont durer encore pendant bien longtemps. Par Émilie Chaudet et Rémi Dibowski-Douat, on commence à Nanterre et ça s'appelle « Nanterre pas tes rêves ».
Je m'appelle Samy. J'habite à côté du stade d'ici, là, à Nanterre. Ça fait plus de 15 ans déjà. Et j'avoue que Nanterre, on s'y sent très bien, en fait. Moi, je m'y sens très bien, en tout cas. J'ai 43 ans et je travaille à la Défense. Je travaille à l'RATP en tant que mainteneur, la maintenance, donc escalier mécanique, l'éclairage de la gare, etc. Cette journée-là, je pense qu'elle est gravée pour tous les Nanterriens et pas que. Ça partait très bien, c'était une journée ordinaire. Moi, je commence à 6h30 le boulot, donc je suis parti au boulot. Et y a un copain à moi qui m'a appelé à 9h30 en me racontant cette histoire. Il raconte qu'un enfant s'est fait tuer par un policier. Et c'est horrible, parce que je suis père de famille, et parce que j'ai des enfants, et parce que ce petit, il a rien fait en vérité. Donc moi, j'ai été complètement choqué, j'ai regardé sur Internet avec mon téléphone au boulot. Je peux te dire que c'était très douloureux à voir. La marche blanche, j'y étais. Mes filles sont scolarisées à côté de la marche blanche. Donc j'ai récupéré mes filles. J'étais le jour de la marche blanche au parc de Nanterre. Je me rappellerai toute ma vie. Et j'étais en train de faire du vélo avec ma petite. Et je vois la marche blanche qui part en vrille. Et des CRS, des agents de la brigade qui rentrent dans le parc. Avec des gosses complètement affolés. Moi, j'ai vu des enfants qui sont venus me voir, qui ont 8 ans, 9 ans, 10 ans, et qui m'ont dit, monsieur, j'ai reçu des bombes lacrymogènes. J'ai vu des mamans avec des poussettes qui se balaient dans le parc, souvent des nounous, c'était un jour de semaine, qui se sont fait gazer par des policiers. J'ai vu des jeunes qui étaient dans le parc et qui reculaient, et j'ai vu des agents CRS qui carrément partaient à l'affrontement avec les jeunes. J'étais dans le parc à ce moment-là, avec mes filles. Au début, je l'ai caché à mes enfants. Moi, mes filles, elles ont 9 et 5 ans. Donc la petite, j'ai pas voulu lui faire peur. Parce qu'à cet âge-là, on est encore sensible. Et la grande est venue me voir le lendemain de la marche blanche en disant « Papa, qu'est-ce qui s'est passé avec le petit garçon ?» Et là, j'étais obligé de lui raconter. Donc je lui ai dit qu'il y avait un enfant qui est allé prendre son petit déjeuner au McDonald's et qui s'est fait contrôler, qui s'est fait tirer dessus. Et qu'il habitait à Nanterre et c'était un de nos voisins. Et voilà, mais c'était pas facile à raconter parce que on essaie de protéger nos gosses. Mais il faut qu'ils le sachent, en vérité. Même à 9 ans. Il y a des agents médiateurs, heureusement, de la ville de Nanterre. Parce que c'est une ville communiste, donc il y a des agents médiateurs. Et heureusement, ils font du super boulot. C'est des mecs qui sont là, ils vont dans les cités, ils vont parler aux jeunes. Mais si les policiers faisaient un peu la même chose, pourquoi ils ont enlevé ces agents de police, là, médiateurs dans les cités? Même s'il y a toujours un conflit, un fossé entre les jeunes et les policiers, il y aurait eu quand même des effets positifs. C'est sûr. C'est un choc terrible, franchement. Ce sera toujours dans les têtes. Moi, en tout cas, j'y pense toujours. Hein. C'est dans nos têtes. Hein.
C'est vrai, t'as dit une chose
importante. Ça va changer. Ça va changer. C'est passé, c'est un petit.
Moi, ce jour-là, justement, je travaillais. Je suis chauffeur VTC. Et j'ai vu le rond-point, j'ai vu la voiture encastrée. J'ai appris que c'était le petit Naël qui s'est fait tirer dessus. On a vu la vidéo. On a vu que le policier a tiré sur un jeune homme de 17 ans qui est sans permis. Franchement, qu'ils disent pas qu'on l'a foncé dessus quand même. Heureusement que c'était filmé, parce que sinon le policier il aurait pu dire tout ce qu'il veut. Et bien sûr, comme ça gêne de citer notre parole, elle n'est pas respectée, on aurait écouté le policier. Ils étaient là, la police c'est vrai, il faut leur travail. Alors, on le respecte pour leur travail. Ça, il faut. S'il n'y avait pas la police, ce serait n'importe quoi. Heureusement qu'ils sont là. Mais il y a des fois, ils débordent. Pour Naël, ils ont débordé. C'est vrai, il n'aurait pas dû conduire sans permis, il n'aurait pas dû faire un rodéo. Mais il s'est avéré que, d'après la déposition du jeune homme qui était avec lui, que le policier il a quelque chose à voir quand même. Dès le début, ils l'ont effrayé, ils l'ont mis des coups de crosse dès le début. Et c'est là que il a accéléré le petit, par panique, il a accéléré. On sait comment ça marche, monsieur. Nous, on est là, on a grandi dans la cité. Hein. Moi, je ne vais pas vous mentir, j'ai conduit sans casque. Et j'ai esquivé des policiers qui voulaient déjà me rentrer dedans. On les connaît. On sait qu'on ne doit pas faire. On sait. Mais est-ce que ça mérite de mourir pour ça? Une fois, je peux vous expliquer une fois ce qui m'est arrivé. Je vous promets que j'ai été choqué. Et c'était pas filmé. Deux jeunes qui passent. Un avec le casque, le jeune sans casque. Qu'est-ce que le policier fait? Il met un coup de matraque dans la tête. Est-ce que c'est normal? Et après, tu vois, on va leur parler. Vous faites, bon, c'est vrai que je l'ai tutoyé, je vais pas mentir. Tu fais quoi? Pourquoi tu tapes dans la tête avec une matraque scopique? Il m'a dit c'est pas ton travail. Il m'a commencé à m'insulter. Il a jeté une grenade. Et voilà, après, c'est compliqué. Des fois, on s'entend pas trop bien. On parle beaucoup de la police qui abuse. Il y a pas très longtemps, il y avait une histoire avec les policiers de l'extrême droite qui avaient un groupe qui disait qu'on va taper du bougnoul. Et ça, c'est trop triste pour la police. En fait, la police est là pour nous protéger. On ne doit pas avoir peur d'eux. En fait, j'ai toujours peur d'une bavure. En fait, c'est ça le truc. Après, bon, maintenant, on sait parler, on sait se calmer. Mais ça peut arriver à tout moment, un policier qui s'énerve. Mais avec qui on s'entend super bien. Franchement, la police de proximité que j'ai connue, c'est une police magnifique. À Pablo Picasso, on avait une police de proximité, on avait un petit commissariat. Les policiers venaient passer tout le temps devant nous, tout le temps bonjour. On en apprend à se connaître. S'il y a un problème, venez nous voir. On venait aller les voir. J'ai trouvé que c'était dommage que Sarkozy l'a enlevé. Et franchement, c'est malheureux pour la ville. Mais heureusement, ils sont là, les gilets rouges. Franchement, ils font du bon travail. Ils parlent avec les jeunes. La tranquillité publique, franchement, la mairie, rien à dire. Franchement, ils sont là pour les jeunes. Nanterre, on a une belle ville. Franchement, c'est très dommage. Je vais pas vous dire que Nanterre, c'est une ville défavorisée, c'est pas vrai. C'est pas Neuilly, c'est pas le 8e, c'est pas le 16e. Ça reste Nanterre, c'est cosmopolite. Et ma ville, je l'aime bien. Franchement, on est ensemble. Qu'on soit juif, musulman, chrétien, athée, on est ensemble. Et on a un slogan à Nanterre, c'est Nanterre, pas tes rêves. Nanterre, Nanterre, pas tes rêves. Donc voilà, je suis né à Nanterre, j'ai grandi à Nanterre. Je suis parti de Nanterre, j'avais 27 ans quand je me suis marié. Mais je suis revenu à Nanterre. J'ai 4 enfants, on les éduque, on essaie de les ramener au sport, à leurs activités. On essaie de les faire sentir français. On va pas nier l'évidence qu'on est le pays d'origine. Malgré qu'on est en France, moi je suis né en France, mes enfants sont en France. Moi je suis français, hein. j'ai pas honte à le dire. Je suis fier d'être français. Mais il faut pas oublier mes origines aussi, j'ai des origines algériennes. Je suis 60% français et 40% algérien. Je suis plus français qu'algérien. Mes origines, on peut pas les oublier. C'est nos parents, c'est les vacances, on peut pas oublier nos origines. On n'a pas grandi à la française comme l'extrême droite souhaite. Voilà, on boit pas de vin, on est religieux, donc je suis un français musulman. Et voilà, donc j'essaie d'éduquer ça à mes enfants. Moi aujourd'hui je suis français, j'en ai une qui n'a pas de problème. Par contre la deuxième, je sais pas d'où elle a appris ça, elle a dit moi je suis algérienne. C'est à l'école, je pense. Je lui ai dit ma fille t'es française mais d'origine algérienne. On est né en France, on a grandi en France, on a mangé la France. L'école, on est parti à l'école française, on est parti à l'école de la République, on sait comment se tenir, on sait comment faire. Ces émeutes, je peux les comprendre, je les soutiens, à une condition. Je comprends pas en fait Le fait de brûler la voiture du voisin. En fait, c'est juste ça qui m'a chagriné un peu. C'est les voitures des voisins qui ont brûlé. Les voisins qui n'ont pas d'argent. C'est des fins de mois difficiles. On voit l'inflation, on voit tout ça. Mais après, c'est le seul moyen qu'ils avaient de se faire entendre. Malheureusement, il faut brûler des voitures pour se faire entendre. Parce que quand on brûle pas des voitures, on ne se fait pas entendre. Et c'est la triste réalité. Maintenant, la page va tourner et ce sera comme Jade Bouna. On va les oublier, après on va penser à eux. Mais regardez, on a fait des émeutes à Clichy-sous-Bois, ça n'a pas changé. C'est toujours pareil.
Comme d'habitude. Allez, jouez ! Jouez !
On m'appelle Mamie, j'ai 56 ans, ça fait 56 ans que je suis à Nanterre. J'ai travaillé toute ma vie, j'ai arrêté de travailler quand j'ai eu mes jumeaux parce que je n'ai pas trouvé de mode de garde. J'étais forcée de les garder, ben depuis j'arrive plus à reprendre le travail. Chômage, ça fait 20 ans que je fais rien. Alors je vis du RSA, malheureusement. Du coup j'ai dit, ben, je vais faire du bénévolat au sein de l'association Authenticité. À Nanterre, voilà. Et je suis seule avec 3 enfants. J'essaye d'éduquer mes enfants comme il faut. Hein. J'en ai 2 de 20 ans qui ont fait des BTS. J'ai une fille de 14 ans aussi qui vient de rentrer au lycée. D'ailleurs, tout le monde me dit que tu as bien élevé tes enfants seuls et tout, ils sont bien polis. Bon, on essaye de leur apprendre les belles choses de la vie, le bon comportement à suivre, qu'il y a des lois, qu'il y a... Tout ça, quoi. À 20 ans, j'ai eu du mal à faire comprendre à mes garçons de sortir avec leurs pièces d'identité. Ça, c'était quelque chose que, au début, quand ils avaient 15 ans, je leur faisais en photocopie parce que je n'avais pas trop confiance. Une photocopie que je mettais dans leur manche. Ils avaient des espèces de poches dans la manche. Je leur mettais. Ils me disaient, mais non, maman, je dis, si, vous ne connaissez pas les contrôles. Il faut. Parce que moi, je voyais les gens, ils se faisaient contrôler. Et puis après, au fur et à mesure, là, ils vont avoir 20 ans. Ils me disent, ouais, c'est vrai, maman, à tout bout de champ, se fait arrêter, contrôler. Je dis, ben voilà, quand vous faites contrôler, ne parlez pas. Posez une question gentiment, tout se passera très bien. Après, ils me disent, oui, mais maman, nous, tu nous as éduqués comme ça. Mais la police, leur travail, c'est d'être brutal, machin. Je dis, mais non, c'est pas ça. Ils me disent, si, maman, t'as bien vu les contrôles, comment ils se passent. Alors pour eux, mes enfants, c'est dur. La dernière fois, mon fils, il revenait de son heure de conduite. Et dès qu'il est rentré dans le hall, il y avait au moins une dizaine de policiers. Ils l'ont pris, ils l'ont plaqué contre le mur. Il m'a dit, maman, violemment. Et il m'a demandé mes papiers. Alors j'ai vite sorti ma pièce d'identité, l'a montré. Il est parti avec. Et il y en a un qui est venu, il m'a pris en photo. J'ai dit, maman, gentiment, je lui ai dit, pourquoi vous me prenez en photo ? Il ne m'a pas répondu, il m'a dit, tu te tais, toi. Et puis il est parti avec ma pièce d'identité, ils sont revenus, ils m'ont rendu, ils m'ont dit, t'habites où ? 8e, allez, tu peux monter. Après, quand il est monté, je dis, bah, qu'est-ce que t'as ? Il me dit, je me suis fait contrôler par la police. Je dis, bah, c'est normal, c'est rien. Il me dit, oui, mais maman, ils m'ont plaqué contre le mur. Je dis, c'est, ah ouais ? Je dis, attends, je vais descendre. Il me dit, non, maman, descends pas. Je dis, mais je vais descendre, je vais demander pourquoi. Il me dit, je leur ai demandé, ils ne m'ont pas répondu. Il me dit, ça sert à rien, ils ne te répondront pas. Il y a une semaine, j'ai rencontré un policier dans l'ascenseur, hein, parce que la vue d'un policier, moi en tant que maman, ça m'a toujours, je ne sais pas, j'ai l'impression d'être coupable, d'être ici. Du coup, je dis, je peux vous poser une question, monsieur? Il me dit, oui, allez-y. Alors déjà, hein, quand il m'a dit, allez-y, ça m'a choqué. Vu sa façon de parler gentiment, parce que d'habitude, ils ne sont pas gentils, hein, ceux qui viennent. Il m'a dit, oui, allez-y. Alors, je lui ai expliqué tout ça. Il me dit, non, madame, vous inquiétez pas. Il est rentré chez vous, votre enfant. Je dis, oui. Il me dit, ça veut dire qu'on a fait un simple contrôle et qu'on lui a rendu sa pièce d'identité. S'il est rentré, c'est que tout va bien. Il ne serait pas rentré, il serait avec nous au poste. Je lui ai dit, oui, mais monsieur, il s'est quand même fait brutaliser, plaqué contre le mur, pris en photo. Je lui ai dit, ça veut dire maintenant il est fiché à vos services. Il me dit, non, madame, c'est que pour nous. Je lui ai dit, fallait lui expliquer. Il a demandé gentiment une explication, on n'a pas voulu lui dire. Mais vous l'avez choqué, mon fils. Et pendant 4-5 jours, il en parlait. Il est venu là, à l'association, il en parlait. Après, je lui ai dit, monsieur, vous savez, votre comportement, Si nous, de notre côté, en tant que maman, on dit aux enfants de changer de comportement avec la police, du vôtre aussi, il faut changer. Le soir des émeutes, on sort, il y avait un attroupement de jeunes dans l'avenue ici. On allait les voir, faut vous calmer, il ne faut pas brûler tout ce qui est Aldi, machin et tout, il ne faut pas toucher tout ça, c'est les mamans qui ont besoin de tout. Non, vous inquiétez, madame, on ne touchera rien du quartier. Ben là, on était rassurés. Voilà, et puis après, on a commencé à entendre les fumigènes, là. J'ai dit, oh là là, ça y est, ça démarre. Alors, on commençait à courir par les fenêtres, on regarde. Et ben voilà, on voyait des jeunes de partout, ça venait de partout. D'en bas de ma fenêtre, j'habite au 8e, j'entendais les gens, on arrive de Sarcelles, de Garges-lès-Gonesse, on vient aider les jeunes de Nanterre. Mais il y en avait de partout. Mais c'était une organisation incroyable. Puis après, on voyait que ça tirait les mortiers, il y en avait qui allaient les chercher, d'autres qui les tenaient, qui tiraient. Et après, on voyait en face les CRS qui se mettaient en ligne et qui avançaient doucement, quoi, pour faire évacuer. Voilà, et puis après, on a vu aussi qu'ils ont traîné des grosses poubelles, mis le feu aux poubelles. Ah, je dis, bon, ils sont vraiment en colère. Moi, c'est pour ça que je parlais à mes enfants en même temps. Je dis, vous savez, là, les enfants, si toutes les mamans, là, du quartier descendent, eh bien, tout ça s'arrêtera tout de suite. Parce que les jeunes, ils sont très respectueux. Ils vont dire, ah, il y a des mamans, on arrête. Et puis de l'autre côté, la police, ben, je ne sais pas ce qu'ils vont penser parce que, voilà. Mais moi, je dis qu'il n'y aurait pas tous ces cas si on serait descendu. J'ai vu quelques mamans, mais il n'y en avait pas assez. Il y avait des mamans qui les faisaient reculer, arrêter et tout. Les jeunes, ça recule, hein. Moi, j'avais envie de descendre pour arrêter les jeunes, hein. Pour arrêter, on serait mis entre les forces de l'ordre et les jeunes, ben, ça ne serait pas parti comme ça. C'est mes enfants qui m'ont dit non maman, il y en a un des jumeaux qui est parti fermer la porte et il a pris la clé dans sa poche. C'est dangereux maman, et si ça charge, tu peux pas courir avec ta jambe, arrête maman. Mais la police, elle chargeait. Hein. Il y avait des mamans et ils faisaient attention à personne. Hein. C'est ça qui est malheureux, c'est que on canalise nos jeunes, mais la police, rien à faire. Hein. Ils sont là pour faire leur travail, ils reculent pas. J'étais hors de moi. Voilà. Elle me dit, maman, tu vas descendre, tu peux même pas courir. Après, je dis, t'as raison. C'est vrai, mon fils, t'es raisonnable. Après les émeutes, quand ils sortaient tous les trois avec les copines et tous les copains, eh ben je descendais avec eux parce qu'on était entourés de flics tout le temps après les émeutes. Je les faisais descendre. Maman, on est trois, c'est bon. Je dis non, vous êtes trois, mais vous êtes trois jeunes. C'est pas possible, il faut que je sois là. Je les faisais descendre. Après, ils avaient rendez-vous avec tous les Taïna, Ruben et tout. Allez-y, je suis là, hein, à tout à l'heure, hein, pas de bêtises. Hein. Je montrais bien à la police que je suis la maman et que... on va loin, là. Une fois, c'est la police du 91, ils faisaient un contrôle, je suis passée, et il y en a un d'eux qui m'a mis un coup au niveau de la poitrine avec son bras, barre. Je dis, mais monsieur, pourquoi vous me tapez? Il me dit, vous voyez pas qu'on fait un contrôle, madame, circulez. Je dis, mais monsieur, je passe. Vous pouvez pas me dire pardon, madame, j'ai pas à vous dire pardon. Il commence à crier, vos papiers. Je dis, j'ai pas de papiers, je suis partie. Et un autre, c'était pour défendre des jeunes qui étaient maltraités, et il écrasait le jeune par terre, son visage sur le gravat. Je dis, mais monsieur, il me dit, écoute, madame, continuez votre chemin. Il me dit, c'est un simple contrôle de papier. Je dis, mais là, un contrôle de papier, il va chercher ses papiers où, le jeune homme? Vous lui avez ligoté les mains, vous l'écrasez par terre, il ne peut même pas vous les présenter, ses papiers, lâchez-le. Madame, continuez votre chemin. Et puis voilà, ça parle mal, ça. Et puis là, juste là, devant la tour, je passais, et ils étaient armés. Et il y en a un d'eux qui disait, tiens, tu les vois les jeunes là-bas? Ah, je voudrais bien les canarder, là, j'ai tout ce qu'il faut. Je le regarde comme ça, je dis, mais c'est pas possible. Il n'a pas dit, il y a une maman qui passe, je vais me taire. Ah non, il ne respecte pas ni maman, ni enfant, ni personne, ni jeune. Ni... Alors, même quand on a fait la marche blanche, arrivé à la préfecture, ils nous ont gazés. Ben, il y avait que les jeunes qui étaient là pour nous aider. Hein, parce que la police en face, ils nous gazaient. Rien. Et vas-y, les jeunes, viens vite, vite, venez. Nous, chaque jeune prenait une dame et nous faisait avancer. Le quartier, on vit bien dans notre quartier, on est très très bien. La solidarité, les jeunes, ils vous voient arriver avec des paniers, ils sont là, ils arrivent en courant, ils vous prennent vos paniers, vous accompagnent. La tour 17, madame, on le sait, hop, ils vont déposer mes courses devant l'ascenseur. On n'a jamais eu de problème, jamais, jamais, jamais. Il faudrait qu'on s'occupe de la jeunesse, c'est quand même l'avenir. À chaque fois, il y a un jeune qui part, à chaque fois comme ça, pour rien, bêtement. C'est pas possible, c'est quand que ça va s'arrêter? Pourquoi tant de violence? Je suis sûre que à nous rassembler, on peut faire quelque chose pour arrêter toute cette violence. Il y a forcément quelque chose à faire. Forcément.
Je m'appelle Élie, j'ai 25 ans, je suis doctorant en sciences politiques. Je suis arrivé à Nanterre en janvier et donc j'étais là le 27 juin au moment où ils ont commencé à envoyer les flics ici. Il y avait un peu un sentiment de provoque un peu bizarre, il y avait cette tension. La journée on avait parlé que du meurtre de Naël et donc chacun peu à peu avait compris qui c'était, où ça s'était passé. Il y avait beaucoup d'images qui circulaient donc... Toute la journée, ça a chauffé dans l'esprit. Et arrivé cette fin de journée où il y a plein de gens qui sortent du travail, qui reviennent dans le quartier, des choses comme ça, il y avait énormément de monde. Et du coup, sur l'avenue, tu sais, c'était un peu coucher de soleil, donc une lumière un peu tamisée. Et il y avait d'un côté tout le monde qui était dehors, parce que tout le monde discutait de ça dans tous les sens et tout. Et de l'autre côté de l'avenue, il y a une espèce de ligne de keufs qui était là en mode au cas où, mais qui du coup, c'était que des gars cagoulés, casques, trucs. On a vraiment l'impression qu'ils vont sur une zone de guerre alors que les émeutes n'avaient même pas encore commencé. Et c'est le souvenir que j'ai de cette journée, vraiment de la tension palpable qu'il y avait le soir. La mort de Naël, ça m'a touché profondément. Je me suis dit... Ah, encore. Ça a encore eu lieu. Il y a un espace d'histoire qui se répète. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment ce déni des pouvoirs publics sur les circonstances du meurtre de Naël. C'est le mensonge initial. Qu'il avait foncé sur le policier. Ou... Il y avait tout un tas d'informations comme ça. Alors que on a les vidéos. On a tous vu ce qui s'est passé pour de vrai. Ce déni initial, ça m'a peiné parce que le cœur de mon travail de thèse, c'est de questionner la relation aux institutions des gens. Et alors qu'on dit constamment aux gens des quartiers populaires et aux gens en général de faire confiance aux institutions, de faire confiance aux politiques, de ne pas dire que tout le monde est pourri, je me demande comment on peut demander ça tout en mentant de la sorte. Et par la suite dire, quand un scénario comme celui-ci arrive, si, faites-nous confiance. Parce que évidemment, les gens vont se dire, mais alors toutes les fois où vous nous avez dit qu'il n'y avait rien et que le policier n'était pas coupable et que c'était un concours de circonstances. Comment on peut vous croire puisqu'on n'avait pas les vidéos? Il y a un certain mépris en fait de répondre de la sorte parce qu'on se dit à quoi bon essayer de se justifier parce qu'à la fin ça sera réglé dans le sens des policiers, donc pourquoi essayer d'être dans la vérité? C'est ça je pense qui a été un des trucs qui m'a le plus peiné quoi. Et ça et ce côté de reléguer le meurtre derrière d'autres choses. Dire ce jeune était connu des services de police. Ce jeune n'avait rien à faire dans cette voiture. Ce jeune ceci, ce jeune cela. Peu importe ce qu'il ait pu faire ou pas faire dans sa vie, il ne mérite pas d'être tué à bout portant par un policier. Là, en l'occurrence, c'est un jeune rebeu dans un véhicule loué qui, effectivement, il n'a pas permis, il a, entre guillemets, pas à être là à ce moment-là. Faire des bêtises à 17 ans, c'est des choses qui arrivent à tout le monde, dans tous les milieux, populaire, classe moyenne, classe supérieure. Sauf que, puisque cette fois c'était dans les quartiers populaires et un jeune homme racisé, On le prend comme une excuse et comme un argument qui justifierait le fait de tuer ce jeune. Et c'est ça, je trouve, qui est le plus choquant quand c'est quelqu'un qui nous ressemble et en qui on peut se projeter, quoi. Quand je suis allé à la rencontre des jeunes, j'ai vraiment la sensation qu'ils ont été touchés au plus profond d'eux-mêmes par ce qui s'est passé. Ils me disaient qu'il y avait cette colère qui doit sortir, mais à la fois, quand ils me le racontaient, il y avait aussi des moments où d'un coup ça s'arrêtait, et à 2-3, ils se retrouvaient et disaient « Mais ce petit est vraiment mort, quoi. » Il est mort. Il avait 17 ans. Il est plus là. Alors que hier, j'étais avec lui. Avant-hier, on faisait ça. De tous ces événements, il me reste un sentiment. C'est le sentiment que j'ai vraiment pas la sensation que les jeunes ont été écoutés. Il n'y a pas eu de conclusion.
Qui ne part pas, les hommes n'écouteront pas l'empereur. Aujourd'hui, il enfilera son pare-balles. Proche de la guerre, il y a l'amour, mais tous les enfants ne le savent pas. Père de famille joue un rôle, car moindre problème, il n'assume pas. Arrogant, il aimait, c'est rien, car derrière son masque, il est ringard. Il n'ira pas seul dans l'arène, il reste derrière les remparts. Les braves ne mentent jamais, ils sont fiers de rendre jaloux les autres. Mais c'est ce qui les rend faibles. Les femmes charmées par le mal deviendront des fantômes juste parce qu'on leur demande.
C'était N'enterre pas tes rêves, un reportage d'Émilie Chaudet et Rémi Diboski doit être réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Loubna Benazi de l'association Authenticité à Nanterre, à Élie, à Mamie, à François Lecourt, à Anne-Marie Peignet et à Annie Catan. Ces eaux est coupée, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et c'est Hortense Martin, notre stagiaire.
Les pauvres aiment les riches, mais les riches n'aiment pas les pauvres, car les riches, avant de l'être, ont dû agir comme des pauvres. La roue tourne toujours quand le karma s'en mêle. On connaît les règles du jeu, donc on n'a pas le cran de s'aimer. Le grand est con, le petit est beau, mais ils rendent des comptes au même roi. Ils finissent par croire que c'est le roi des cons jusqu'à ce qu'ils se retrouvent tous les trois. La guerre est courte, la paix est longue, mais la guerre paraît bien plus calme. Car la paix emmène à la guerre et sans le faire exprès, tout le monde a des armes. Les bois, cette fois, ne peuvent rien y faire. Les autres sont trop nombreux, ils sont devenus des faibles. Les femmes ne sont plus vraiment belles, non plus l'air tellement fier d'être attirées par des faibles. À qui la faute, c'est toi ou c'est les autres, mais qui est l'un des nôtres des fois? C'est les traîtres, le monde est moche alors que c'est le nôtre, disait le vieux. Assis sur les marches, on est mieux chez soi, vu qu'on est rien chez eux.